Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue et bon réveil, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Vous discutez aujourd'hui avec Pauline Schnapper, professeure des civilisations britanniques contemporaines à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
Oui, c'est ça, on va parler de ces nouvelles négociations sur le Brexit à Bruxelles hier. Et pour la première fois, il a été question de la phase 2 de ces négociations, celle des relations avec un Royaume-Uni hors de l'Union européenne. Bonjour Pauline Schnapper.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Alors, timide ouverture, je le disais tout à l'heure, reste que rien n'est gagné. Les négociations sur le Brexit traînent. On ne peut pas dire que ce soit pour l'instant un succès de politique étrangère pour Theresa May et son ministre du Brexit, David Davis. Pendant ce temps, cette situation entrave la marge d'action britannique qui ne peut conclure d'autres accords commerciaux. Et les démarches diplomatiques en 2017 se sont bornées, on pourrait dire, à rassurer les partenaires commerciaux ou à des visites d'apparat dans le Commonwealth. 52 pays, mais peu de poids politique. Ajouté à cela, il faut le dire, les hiatus ou les tensions même avec le Foreign Office dirigé par Boris Johnson, très peu diplomates et pris dans des scandales à répétition. Et puis aussi deux démissions de postes diplomatiques importants, la dernière hier. Bref, alors que l'enjeu fixé par Theresa May en janvier dernier était assez élevé, hein, c'était une Global Britain, et bien la politique étrangère britannique apparaît plutôt en décomposition et en flottement aujourd'hui. Est-ce que c'est trop sévère de voir les choses ainsi, Pauline Schnapper ?
Non, je crois que vous avez tout à fait résumé le double problème. D'un côté, une négociation européenne qui se passe mal pour une série de raisons, pour beaucoup qui sont liées à la situation de politique intérieure dans laquelle se trouve Theresa May et à sa faiblesse politique, qui fait qu'elle ne peut rien imposer à son cabinet et encore moins au Parlement. Donc, elle n'est pas du tout en position de force à Bruxelles non plus. Et puis, plus généralement, effectivement, les grandes ambitions affichées d'une politique étrangère qui deviendrait très ambitieuse, mondiale, hein, vous avez parlé de ce terme qui revient en permanence, Global Britain, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ben, pas grand-chose, tant qu'effectivement on ne peut pas signer d'accords commerciaux. Personne ne se précipite d'ailleurs, y compris chez les anciens alliés du Royaume-Uni, pour leur promettre quoi que ce soit à l'avenir de ce point de vue-là. Et puis bien sûr, comment avoir une politique étrangère ambitieuse quand non seulement on perd l'Europe, mais qu'en plus l'autre grand allié américain est représenté par un président totalement imprévisible et avec lequel finalement on a très peu de choses en commun.
Et qui met en péril cette fameuse relation spéciale, special relationship. On va en dire un mot juste sur le Brexit. On peut quand même noter, je disais, une timide avancée, en tout cas de la part de l'Union européenne. Les ambassadeurs qui étaient réunis mercredi ont décidé donc qu'on pouvait déjà envisager une période de transition, donc cette fameuse phase 2. C'est un changement de position par rapport au 20 octobre où on jugeait que les propositions britanniques n'étaient quand même pas suffisantes.
Oui, enfin pour l'instant ce sont des subtilités de discours. Sur le fond, on sait très bien depuis le début qu'il faudra bien qu'il y ait une période de transition. Ou alors il n'y aura pas d'accord du tout, et c'est la fameuse tombée de la falaise dont on parle parfois. On sait bien qu'il faudra qu'il y ait un accord de transition, et pour l'instant, le point sur lequel tout cela chope, et sur lequel il va bien falloir que les Britanniques cèdent du terrain, c'est la question financière. Pour l'instant, Theresa May n'avait cité dans son discours de Florence que la somme de 20 milliards de livres que le Royaume-Uni serait prêt à payer pour solde de tout compte, ce qui était très très loin de ce que la Commission et les Européens
Oui, on parle de 40 à 70 milliards,
plutôt,
je crois.
Voilà, on est plutôt dans cet ordre-là. Donc je pense que là où les choses peuvent se débloquer ou pas, c'est si on arrive à trouver un compromis sur cette question financière qui est quand même très importante pour tout le monde, y compris pour les Européens à 27. Et là, on pourra, si un accord est trouvé là-dessus, mais encore une fois, il n'y a aucune certitude, on pourra vraiment passer à la seconde phase, qui est de réfléchir beaucoup plus précisément à en quoi consisterait cette période de transition, combien de temps, avec quelles règles. Et surtout, peut-être encore plus important, derrière cette période de transition, qu'est-ce qui se passe ? Quel type de relation le Royaume-Uni va-t-il conserver avec l'Union européenne ? Pour l'instant, tout ça est encore très très flou.
Et alors précisément, si on parle de cette deuxième grande relation historique, c'est celle avec les États-Unis. On en a dit un mot, effectivement, l'arrivée de Donald Trump, qui a une politique plutôt protectionniste. Qu'est-ce que peuvent espérer les Britanniques en termes d'accord commercial, sachant qu'il y a déjà une brouille sur la question de Boeing contre-bombardier, puisqu'il y a beaucoup d'emplois du constructeur canadien Bombardier au Royaume-Uni. Mais il y a surtout une visite officielle très intéressante de Donald Trump qui se prépare pour l'année prochaine. Je dis très intéressante parce que visite qualifiée de travail.
Oui, les Britanniques, enfin le gouvernement actuel n'a pas intérêt à transformer ça en grande visite d'État avec cérémonie, etc., à cause de l'opposition très forte qu'il y a dans le pays, comme dans toute l'Europe, vis-à-vis de Donald Trump. En ce moment, les Britanniques ne sont d'accord quasiment sur rien avec l'administration actuelle, il faut bien voir. Il y a la question commerciale que vous avez parlé, même si Trump joue un peu, enfin, sur plusieurs tableaux, dit des choses contradictoires, comme souvent avec lui, un jour que oui, bien sûr, cette relation spéciale est très forte et qu'il y aura un accord commercial, et puis un autre jour dit que bah on verra à l'avenir, de toute façon c'est pas d'actualité. Ils ne sont pas d'accord avec les Américains, bien sûr, sur le dossier iranien, sur le climat. Vous avez parlé de l'épisode Bombardier. Tout ça fait qu'on voit mal à court terme, mais bien sûr, on est dans le court terme avec l'idée que l'administration américaine ne restera pas indéfiniment la même, bien sûr. Mais pour l'instant, il est très difficile, malgré toute la volonté des Britanniques, d'envisager un approfondissement de cette relation spéciale. Donc, on peut imaginer que sans le dire, le gouvernement actuel à Londres attend la suite.
Alors ça, c'est déjà un point, on verra pour la suite. En tout cas, du côté intérieur, du côté du Foreign Office, il y a eu des remous quand même très sérieux cette semaine, du côté de Boris Johnson, notamment, on le sait, habitué à des déclarations intempestives, mais là, c'est allé un cran un peu plus loin au sujet d'une irano-britannique qui est emprisonnée en Iran, qu'il a qualifiée de journaliste. Du coup, ça a renforcé encore la sévérité de la justice iranienne envers elle. On parle d'une affaire qui pourrait le faire sauter dans la presse britannique. Est-ce que c'est si grave que ça ?
Alors là, c'est particulièrement grave parce que ça touche la sécurité d'une personne qui a la nationalité britannique et qui est emprisonnée en Iran. Donc tout ce qui peut évidemment donner un prétexte à la justice iranienne pour la condamner encore plus lourdement est particulièrement grave, si vous voulez. C'est presque du même ordre qu'un ministre qui citerait le nom d'un agent des services secrets. Enfin, oui, c'est de cet ordre-là. Cela dit, la position, encore une fois, de faiblesse de Theresa May est telle que à chaque bourde, à chaque gaffe, à chaque catastrophe provoquée par Boris Johnson, on pense toujours que cette fois, elle va se débarrasser de lui. Et pour l'instant, il a toujours tenu parce qu'elle pensait ne pas pouvoir se permettre de le renvoyer à cause notamment de sa popularité réelle ou supposée au sein du Parti conservateur. Donc est-ce que cette fois-ci, on a vraiment atteint la limite et elle va finir par prendre la décision, ou est-ce qu'une fois de plus, on va attendre la prochaine bourde ? Je serais bien en peine de vous le dire aujourd'hui, c'est l'avenir proche qui le dira.
Parce que là, il y a un impair diplomatique, mais il y a une affaire, alors là, qui n'est pas encore prouvée, mais il y avait des soupçons aussi de collusion avec la Russie, évoquée dans le journal The Observer, notamment avec ce fameux George Papadopoulos, impliqué dans la campagne de Donald Trump, dans les liens de Donald Trump avec la Russie. Là, on a l'impression quand même d'un réseau aussi autour de Boris Johnson, autour du Brexit, dit encore The Observer. Là, on a une affaire très sérieuse également.
Potentiellement, oui, sauf que, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a rien de bien tangible qui est sorti là-dessus. Hein. C'est plus de l'ordre de la rumeur. Et depuis l'article que vous citez, il s'est en fait rien passé là-dessus. C'est pas là-dessus que le débat porte ces derniers jours. Donc il faudra voir si, peut-être en parallèle d'ailleurs avec ce qui se passe à Washington avec l'enquête du FBI, si de nouvelles révélations, et cette fois-ci vraiment étayées, sortent dans la presse ou pas dans les jours ou les semaines qui viennent. Pour l'instant, c'est pas là-dessus, disons, que porte le débat autour de Boris Johnson ces jours-ci.
Alors ça c'est pour Boris Johnson. Si on parle des autorités chargées de l'international, les autorités britanniques, il y en a deux autres qui sont un peu sur la sellette. Priti Patel, ministre de ce nouveau ministère créé par Theresa May du développement international, et puis Mark Garnier, qui est le sous-secrétaire d'État au commerce, lui accusé de harcèlement sexuel. C'est pour ça que je disais, on a un peu l'impression même d'un ministère et d'un appareil diplomatique au plus haut niveau paralysé un peu.
Oui, enfin, même, je dirais plus généralement, c'est tout le gouvernement britannique aujourd'hui qui est dans un état qu'on a quand même rarement vu, en tout cas pas vu depuis le début des années 90. C'est-à-dire que quand vous mélangez les divisions autour de la question du Brexit, l'absence de leadership au 10 Downing Street, les affaires de harcèlement sexuel qui sortent depuis plusieurs jours, et j'allais dire les bourdes personnelles de gens comme Boris Johnson ou Priti Patel, qui a essayé de mener une espèce de diplomatie parallèle en Israël cet été, c'est vrai qu'on a une impression de délitement de ce gouvernement et que tout le monde se demande combien de temps elle va pouvoir tenir, elle, Theresa May.
Et alors précisément, dans cette situation, si on reste sur la question de la politique étrangère, est-ce que ce n'est pas par Theresa May qu'elle doit passer, qu'elle peut passer et qu'elle trouve en même temps ses limites? On voit que Theresa May était plutôt très active diplomatiquement. Je crois qu'il y a eu 22 déplacements de sa part, 17 hors Union européenne, un seul dans le Commonwealth, mais des déplacements en Turquie, au Japon, au Canada, en Inde. Est-ce que c'est pas elle qui s'est chargée de la politique étrangère?
Oui, c'est un peu ça. C'est vrai qu'elle s'est lancée dans une espèce de diplomatie de l'avenir, hein, celle du Global Britain dont on parlait tout à l'heure, à essayer de prévoir, d'envisager des accords notamment commerciaux avec un certain nombre de pays, je pense au Japon ou à l'Inde en particulier. D'ailleurs, des voyages qui n'ont pas toujours été de grands succès. C'est certain que le Foreign Office, en ce moment, si vous voulez, est dans un état de faiblesse qui est tout à fait inhabituel pour lui. Et je pense que, enfin, je sais que beaucoup des diplomates britanniques n'ont qu'une hâte, c'est de changer de ministre, ça, très clairement, pour essayer de reprendre une place sur la scène internationale qui est totalement en chute libre depuis un an et demi.
Voilà, et en plus d'une paralysie, ce serait donc une fronde de cette diplomatie à laquelle serait confrontée Theresa May. Merci beaucoup, Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à Paris 3.